Vous écoutez RTL.
L'invité de RTL Matin, Olivier Bost, vous recevez ce matin la présidente de l'UNEF, Lila Lebas.
Lila Lebas, bonjour.
Bonjour.
L'UNEF publie son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante. D'après vos calculs, ce coût augmente pour la rentrée de 1,31%. C'est moins que l'inflation. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ?
Non, aujourd'hui, on voit bien que l'augmentation du coût de la vie continue d'année en année d'augmenter la précarité des étudiants. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de pouvoir faire des études. On a un système de bourse qui est complètement à bout de souffle. C'est 73% des étudiants qui sont exclus du système d'aide sociale. Et même, il est insuffisant puisque le montant maximal, il est à 555 euros par mois, alors que le seuil de pauvreté, il est à plus de 1000 euros. Donc, on voit que c'est largement insuffisant. Et c'est une rentrée 2018 qui va être encore plus compliquée pour les étudiants cette année.
Concrètement, être étudiant, ça coûte combien par mois pour se loger, se nourrir, se déplacer, etc.
Ça dépend beaucoup des villes universitaires, mais on voit par contre qu'aujourd'hui, on a plus de 8 villes universitaires qui augmentent simultanément les prix des loyers et des transports, qui sont les deux principaux postes de dépenses mensuelles pour les étudiants. Le logement, bien sûr, puisque c'est une garantie pour pouvoir avoir accès à un logement près de son lieu d'études, pour éviter des temps de transport à rallonge et étudier dans des bonnes conditions. Et les transports également, qui sont obligatoires pour se déplacer dans une ville universitaire. Mais on voit que entre le coût de la vie et les aides qui sont disponibles pour les étudiants, on a un reste à charge qui augmente par mois pour les étudiants, et que c'est de plus en plus compliqué. Et donc entre le système d'aide sociale insuffisant, la solidarité familiale qui est de plus en plus compliquée puisqu'il y a comme une inflation qui est très forte, et ben les jeunes sont souvent obligés de se salarier alors même que c'est une des premières causes d'échec à l'université.
Justement, travailler, ça veut dire combien d'heures par semaine pour un étudiant qui a besoin de combler ses revenus?
Et ben c'est en moyenne 20 heures, 25 heures, voire 35 pour des étudiants qui sont obligés de pouvoir avoir une source de revenus supplémentaire pour pouvoir financer leurs études. On voit bien presque 20% des étudiants disent que c'est une source d'échec. En tout cas, ça les empêche de pouvoir réussir correctement à l'université. Et donc, c'est quand même particulièrement compliqué. Et il faut que le gouvernement puisse y répondre. Il faut des mesures d'urgence pour la rentrée 2018. Mais il faut aussi des réformes structurelles du système d'aide sociale pour prendre en compte l'autonomie des étudiants et leur garantir de faire des études dans des bonnes conditions.
Il y a des choses qui sont faites. Par exemple, le gouvernement a promis la construction de 60 000 logements d'étudiants sur le quinquennat. C'est l'une des réponses, notamment.
C'est l'une des réponses. C'est l'une des réponses, tout à fait.
Elle n'est pas suffisante.
Elle n'est pas suffisante, mais en tout cas, déjà sur ces 60 000 logements, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un véritable déjà état des lieux sur quand ils vont être construits, comment, notamment qu'ils puissent être gérés par les CROUS. C'est le réseau des œuvres à destination des étudiants qui garantit une tarification sociale qui est pour nous essentielle. Puisque si on construit des logements qui, d'ailleurs, ont des tarifs trop élevés, et ben encore une fois, ça ne va pas résoudre la précarité étudiante et les difficultés à se loger. Mais il y a aussi, encore une fois, je le disais, la question des aides sociales. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a on a beaucoup de jeunes qui sont exclus du système de bourse, que le montant est insuffisant, qu'on prend encore en compte la feuille d'impôt des parents pour savoir si on a accès à des aides sociales ou non. Pour nous, c'est pas normal. Il faut prendre en compte les besoins réels des étudiants, avancer vers une allocation d'autonomie. Et donc, pour ça, il faut des réformes structurelles du système d'aide sociale. Ça avait été annoncé par le gouvernement qu'il y aurait une réforme de fond. Et pour l'instant, on n'entend plus beaucoup parler de cette réforme. Et donc, nous, on attend que des discussions soient ouvertes sur ce sujet-là.
Mais le gouvernement quand même fait des choses concrètes. Par exemple, Emmanuel Macron a supprimé les cotisations des étudiants pour la sécurité sociale. C'est quand même 217 euros par an de pouvoir d'achat gagné.
Pas pour tous les étudiants déjà. Et en plus, c'est quand même une question, puisqu'on a à côté de ça des frais d'inscription à l'université qui augmentent de leur côté, avec une nouvelle contribution vie étudiante de 90 euros. C'est quand même deux postes de dépenses différents. La question de la santé des jeunes, qui est un sujet, quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui renoncent aux soins faute de moyens, quand on sait que, tout simplement, supprimer la cotisation de vie étudiante, ça a aussi des conséquences sur l'accès à la santé, sur l'accès aux mutuelles, je dirais pour et par les étudiants, qui garantissent des tarifs sociaux, qui garantissaient des mutuelles qui répondaient aux besoins de santé des étudiants. Là, c'est des offres de santé qui risquent de coûter plus cher et donc d'impacter aussi directement le portefeuille des étudiants. Et au-delà de ça, c'est les frais, comme je disais, scolarité qui augmentent à côté. Et on voit bien avec notre enquête que ça ne suffit pas à renverser la question de l'augmentation du coût de la vie qui augmente d'année en année, comme on le démontre, puisque c'est 1,31% pour l'ensemble des étudiants. Mais pour 56% d'entre eux, le coût de la vie augmente plus que l'inflation, donc plus que 2,3% à la rentrée universitaire. Donc, il faut imaginer un peu l'impact que ça va avoir pour le portefeuille des étudiants et pour la rentrée prochaine.
Il y a une semaine, sur RTL, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a réévalué les dégâts des manifestations dans les universités au printemps. La facture s'élève finalement à 7 millions d'euros. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé dans les facs ?
Nous, évidemment, on dénonce toute dégradation des lieux d'études et ce n'est pas l'objectif des mobilisations. En revanche, j'aimerais bien que Madame Vidal nous donne des éléments chiffrés sur ces dégâts, puisque c'est bien...
Vous mettez en doute les 7 millions.
En tout cas, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de justifier d'où proviennent ces 7 millions d'euros. Dans certaines universités, on voit que c'est des frais de gardiennage, dans d'autres, des frais de sécurité. Pour moi, ce n'est pas vraiment dû aux dégradations. Et quand on voit l'état de vétusté...
C'est pour empêcher une nouvelle dégradation, mais...
Bah non, en vacances d'été, quand les mobilisations s'étaient terminées.
Si la porte a été cassée, mais en tout cas, devant ces phénomènes de casse,
moi, j'ai pas de facture, j'ai pas d'éléments université par université qui me permettent de dire quelles dégradations sont dues au mouvement étudiant. Quand on voit l'état de vétusté des universités, et ça, on en parle quand même très peu, on peut aussi se dire que les travaux de rénovation qui étaient nécessaires, qui étaient essentiels à faire dans certaines universités. Donc, oui, il y a eu des dégradations. Oui, ce n'est pas l'objectif de la mobilisation. Et la mobilisation, elle demandait la fin de la sélection à l'université, même si parfois certains ont préféré faire la lumière sur quelques dégradations dans les universités. Et par contre, on demande un plan détaillé de ces 7 millions d'euros, puisque sortir des chiffres comme ça ne permet pas d'avoir la visibilité.
Vous aviez combattu ce que vous appelez cette sélection, c'est-à-dire Parcoursup. Le bilan à quelques semaines de la rentrée, c'est que presque 600 000 bacheliers sont fixés sur leur sort. Ils ont une université à la rentrée. 16 000 jeunes sont encore, d'après le ministère, en recherche active d'une place en fac. Est-ce que le bilan de Parcoursup est si mauvais?
Mais en tout cas, il est très inquiétant pour la rentrée universitaire prochaine, parce que vous l'avez dit, 66 000 jeunes, alors qu'on est le 20 août, qui ne savent toujours pas où est-ce qu'ils pourront s'inscrire, dans quelle ville universitaire, dans quelle filière, est-ce qu'ils pourront continuer leur projet d'études ou non. 66 000 derrière, c'est des individus, c'est des jeunes qui ont le baccalauréat.
Il y en a 16 000 qui sont encore en recherche active.
Alors. Qu'est-ce que ça veut dire, actif ou inactif sur Parcoursup? Moi, je pense que ces termes-là, ils ont un sens.
C'est répondre aux sollicitations de Parcoursup.
Pas seulement, puisqu'il y a des jeunes qui sont considérés comme inactifs par le gouvernement, qui ne savent même pas encore qu'ils peuvent saisir le recteur pour avoir des propositions pour pouvoir s'inscrire à l'université. Inactif, j'aime pas ce terme, puisque ça fait poser la responsabilité sur l'étudiant. À la fin, en septembre, on le dira, le 5 septembre, quand chaque étudiant en attente auront un nom, on lui dira, eh bien tant pis, c'est de ta faute, tu avais qu'à répondre. Je pense que ce n'est pas comme ça que le système d'affectation dans l'enseignement supérieur doit fonctionner. Il y a 66 000 jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, qui n'ont toujours pas de réponse, et on ne peut pas se dédouaner en jouant avec les chiffres, alors que c'est des vies d'étudiants derrière. Il faut trouver des réponses, il faut permettre de s'inscrire. La rentrée, c'est début septembre dans les universités. On ne peut pas permettre à des jeunes de louper leur entrée et de commencer avec des difficultés l'année universitaire.
Le gouvernement a annoncé la création de 10 000 places pour faire face au nombre d'étudiants. Est-ce que c'est suffisant, selon vous?
Non, ce n'est pas suffisant. Déjà, c'est une bonne chose, 10 000 places. On aimerait bien savoir où est-ce qu'ils sont ouvertes, dans quelle filière, dans quelle université. Donc, on attend beaucoup du bilan qui est promis par la ministre de Parcoursup au mois de septembre. Mais enfin, il faut en augmenter plus. On a un boom démographique depuis des années. On a de plus en plus de jeunes, du coup, de plus en plus de jeunes qui veulent arriver à l'université, ce qui est une bonne chose. On a besoin de jeunes diplômés, c'est important, c'est la meilleure arme contre le chômage aujourd'hui. Et pourtant, eh bien, on ne met pas les moyens suffisants dans l'enseignement supérieur, on n'investit pas suffisamment, on n'ouvre pas des places et on ne permet pas simplement à des jeunes d'avoir accès à la filière de leur choix. Et ça paraît essentiel, puisque quand on est dans une filière qui ne correspond pas à son choix d'études, comment réussir, comment réaliser son projet d'études, comment réaliser son projet professionnel? Et donc, il faut ouvrir des places, il faut ouvrir plus de 100 000 places pour la rentrée universitaire prochaine, il faut mettre des moyens supplémentaires pour pouvoir les accueillir correctement, permettre de dédoubler des salles, d'embaucher des enseignants-chercheurs pour avoir un meilleur taux d'encadrement, mais aussi revoir en profondeur la licence qui n'a pas été fait.
100 000 places dans les universités. Merci.
Merci.
Présidente de l'UNEF, invitée de RTL Matin. Vous retrouvez tout ça en vidéo, sachez-le, sur notre site rtl.fr. Vous constaterez que la présidente de l'UNEF est jeune, elle représente ces jeunes en veste en jean, et qu'Olivier Bost est en veste de costume. J'ai pas dit que vous étiez vieux pour autant. Merci. Olivier Bost. Hein. rtl.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez.